On accueille Edith, Michel et Isabelle aujourd'hui dans le studio pour parler de ce projet qu'est Salim. Et je vous propose qu'on commence avec Edith pour que tu nous racontes un petit peu la genèse de cette idée, le lien ou pas avec la sécurité sociale, comment ça a germé et comment ça s'est concrétisé aussi jusqu'à aujourd'hui.
Carrément, et déjà aussi merci beaucoup pour l'invitation, c'est trop chouette de nous recevoir. Le projet politique de la sécurité sociale de l'alimentation, ça a émergé en France à peu près en 2019. Il y a un collectif d'associations, de syndicats et autres qui ont réfléchi un peu sur plusieurs constats. Déjà, il y a le fait qu'aujourd'hui, le système agroalimentaire, il ne permet pas vraiment à la population vivant en France de se nourrir correctement. En 2022, il y avait à peu près, je crois, 7 millions de personnes qui allaient à l'aide alimentaire. Une personne sur trois qui dit avoir au moins une fois s'être restreint, en fait, sur s'alimenter. Donc à la fois sur la qualité et la quantité, c'est pas au rendez-vous. Il y a aussi le fait que ce système, il maltraite aussi les personnes qui produisent notre nourriture, quoi. Bon, bien sûr, il y a différentes manières de produire, tout le monde n'est pas concerné. Mais chez les exploitants agricoles, le taux de pauvreté, enfin le pourcentage qui est sous le taux de pauvreté, il est quand même fort, un peu plus élevé que la moyenne en France. Donc c'est quand même fou que les gens qui contribuent à nous nourrir ne soient pas rémunérés correctement, quoi. Et ça concerne aussi les conditions de travail dans les autres, pas que dans la production, mais aussi la transformation, la distribution. Donc c'est quand même pas satisfaisant, quoi. Et il y a aussi le fait que le système agroalimentaire aujourd'hui, il contribue à détruire un peu la planète, cause de pollution, d'émissions de gaz à effet de serre, qui s'ajoute aussi beaucoup sur la biodiversité et la possibilité d'habiter la terre durablement, quoi. Il y a aussi le sujet de la santé. On a vu là les écosystèmes, la faune, la flore, mais aussi la santé des humains, à la fois les gens qui produisent la nourriture et les personnes qui en mangent. Donc c'est pas satisfaisant, quoi. Et il y a déjà plein de choses qui existent, hein. L'aide alimentaire, c'est des personnes qui font des choses incroyables. Il y a des AMAP, donc des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Il y a des groupements d'achat, il y a plein de choses, mais on voit que les alternatives, on a du mal à aller plus loin, quoi. Et du coup, c'est de tous ces constats qu'est née par ce collectif-là une réflexion de, en fait, est-ce qu'on créerait pas une sixième branche, comme tu l'as dit tout à l'heure, à la sécurité sociale? Et le principe, ce serait les mêmes piliers, donc l'universalité. Tout le monde pourra en bénéficier, comme aujourd'hui, tout le monde est remboursé en partie quand on va chez le médecin. Que ce soit financé par la sécurité sociale, donc une cotisation, par la cotisation sociale, pardon, de partager du coup la valeur produite par le travail, et de conventionner démocratiquement les professionnels de l'alimentation chez qui on pourrait dépenser un budget alimentaire qui serait de 150 euros par mois et par personne. Donc ça, c'est un peu un projet politique qui est réfléchi, discuté. C'est pas à l'ordre du jour du gouvernement au jour d'aujourd'hui.
Ah bon?
Bizarrement.
Ah ben attends, là tu m'étonnes. Ah ouais. Bon, je pensais que c'était pour demain, moi.
Non, et pourtant, il s'inscrit, on a parlé de l'anniversaire de la Sécu tout à l'heure, ça s'inscrit vraiment dans cette ligne.
Oui, mais là, l'ordre du jour, c'est plutôt de démolir la Sécu que de créer une sixième branche, donc c'est sûr que...
Bon. C'est ça. Bon, du coup, est-ce qu'on s'arrête, on fait rien? Non, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on pourrait pas expérimenter ce concept-là? C'est pas la même chose que la SSA, parce que comme ça touche pas tout le monde, c'est pas universel. On fait pas de cotisations sociales non plus, c'est des cotisations qui sont volontaires. Par contre, on peut expérimenter le conventionnement démocratique. Et du coup, en France, en Belgique aussi, il y a plus d'une quarantaine d'initiatives locales qui essaient de tester ça à petite échelle, localement, du coup en faisant des caisses communes de l'alimentation, des caisses citoyennes de l'alimentation. Et Caisse Alim, c'est une de ces initiatives locales à Toulouse. Et si vous voulez plus d'infos là-dessus, vous pouvez retrouver le site, le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation. Ils ont plein de ressources. Ils sont vraiment un super travail.
Donc ça, c'est un site internet.
Ouais, exactement.
Fatima, tu avais une question.
Donc SSA, c'est sécurité sociale alimentaire. On est d'accord.
De l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est pas juste les aliments qu'on mange comme un produit alimentaire, mais ça désigne aussi toutes les filières, la production, la transformation, la distribution et aussi tout l'aspect social et culturel autour de l'alimentation. Et peut-être juste pour préciser, c'est aussi de dire au départ, quand la sécurité sociale elle a été mise en place, c'est pas pas d'un coup, on s'est dit, on le crée à partir de rien. Il y avait déjà des caisses communes, des mutuelles, etc. Du coup, il y a eu un mouvement de collectivisation un petit peu de tout ça. Et du coup, on peut se dire aussi qu'expérimenter des initiatives locales, bah, ça permet de créer un peu du déjà là, on part pas de rien et on montre que c'est possible. Et c'est assez intéressant. Et moi, je connaissais pas avant de participer à ce projet-là le détail un peu de l'histoire de la sécurité sociale, et je suis pas du tout une experte, mais au tout début, quand ça a été créé, la prise de décision, c'était partagé entre des représentants de travailleurs-travailleuses.
Donc là, tu parles de la sécurité sociale qui existe.
Ouais, là, voilà. Oui. En 46...
C'était démocratique, c'était pas l'État qui gérait ça, c'était des caisses...
qui représentaient...
Les syndicats, ouais, les patrons...
Et des patrons aussi, et qui discutaient, qui délibéraient, et c'est un peu différent aujourd'hui. Donc, il y a aussi cette idée vraiment dans la SSA de, ben, à la fois, que ce soit un moyen pour avoir un droit effectif à une alimentation de qualité et choisie, et aussi mettre en place un système démocratique dans l'alimentation, quoi. C'est un peu un vaisseau pour aller vers ça.
Oui, l'idée, c'est que ce soit vraiment les citoyens qui pilotent cet outil, et que ce ne soit pas forcément des instances qui nous échappent et qui prennent des décisions contre lesquelles on ne peut plus rien, et ce qui est le cas avec la sécurité sociale actuellement.
C'est ça.
En fait.
Ouais. Et citoyen, je dirais habitant au sens large, toute personne qui résiderait en France...
Sans forcément avoir les papiers en règle, tu veux dire.
Ah, merci beaucoup,
nous parle.
Tu me donnes la réponse de la question que je n'avais pas posée comme ça. Merci infiniment. Mais alors tu dis... Ah, oh, pardon, alors attendez,
alors, Michel,
je mets au micro, chose. Michel. Oui, dis-moi, Michel.
Oui, dis-nous. C'est la participation citoyenne, un peu là. C'est qu'on se remet à la place du citoyen qui décide pour lui-même et pour les autres.
C'est ça.
Ensemble.
Et donc, justement, Michel, puisque tu as pris la parole, on te la donne. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé pour toi, ton adhésion, en fait? Donc, toi, tu es adhérente d'une des quatre caisses qui existent à Toulouse localement.
Oui, voilà, sur Toulouse. Ben, quand j'ai eu vent de cette affaire-là, je me suis tout de suite collé parce que j'étais déjà un peu investi sur l'écologie, les circuits courts, etc. Intéressé par les produits de qualité aussi, hein. J'aimerais rappeler que j'ai un passé de technicien agricole, donc j'ai des bases aussi à ce niveau-là, au niveau des produits, etc. Donc les circuits courts, bon, on en parle au sein de mon quartier, et on est content, et moi je participe donc à cette expérimentation en faveur de cette redistribution du pouvoir d'achat. De chacun.
Quand tu dis que tu en as eu vent comment ?
Au centre social de Bagatelle, où des gens se sont présentés, et l'inscription a été très, très rapide. On avait les responsables sur place, et j'ai eu tout de suite une carte.
Donc une carte que tu nous as apportée, et
voilà,
donc comme on est à la radio et pas à la télé, on va la décrire avec
voilà,
des mots.
C'est une carte carte de crédit, hein, format carte de crédit, qui s'intitule Vitalim carte d'assurance alimentation.
Et elle a quand même un design très proche de la carte vitale.
Oui,
mais
voilà.
Pas en vert, mais en orange, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est copie conforme, avec une utilisation un petit peu différente, mais c'est toujours le même principe, et la distribution, la redistribution se fait par cette carte.
Donc quand tu parles de redistribution du pouvoir d'achat, concrètement pour toi, ça se traduit comment en termes de cotisations versées et de budget dont tu peux profiter pour faire tes courses ?
Voilà, disons que je verse une certaine somme qui est définie avec des critères qui sont définis donc par Kessalim. Hein. Il y a un barème avec une correspondance selon les revenus de chacun, et on va verser une certaine somme qui peut aller de zéro à ce qu'on veut. Et donc, dans la mesure de ses moyens, on va verser une certaine somme à cette caisse qui va nous reverser automatiquement 100 euros, 100 mona qui valent 100 euros à dépenser dans le mois.
Ok, donc 100 euros, c'est ce que reçoit tout adhérent de Kessalim, quelle que soit la cotisation. Donc on est vraiment sur la logique de on contribue selon ses moyens et on obtient un budget selon ses besoins qui ont été calculés en moyenne par... pour, bon, 100 euros par mois par personne, c'est ça?
C'est ça, ouais. 100 mona, c'est pour monnaie alimentaire, mais en effet, comme tu disais, une mona égale 1 euro.
Voilà, et ça procure une base à chacun qui est la même pour avoir une nourriture saine, agréable et en circuit court, etc.
Voilà, donc ça, c'est le troisième versant. Donc, on peut en parler avec Isabelle qui est présente ici. C'est qu'on ne peut pas faire ses courses n'importe où. Et il faut s'adresser à des producteurs et des productrices conventionnées ou des exactement. Commerçants conventionnés. Donc, c'est ton cas, Isabelle.
Tout à fait.
Est-ce que tu peux nous dire déjà quelle est ton activité en tant que productrice?
Moi, je suis agricultrice paysanne installée sur une ferme à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Toulouse, une ferme où nous sommes trois associés. On va produire de la viande de mouton, on produit des légumes et moi spécifiquement je fais ce qu'on appelle de la transformation végétale, c'est-à-dire que je vais cuisiner les végétaux que j'ai sur la ferme, soit issus de mes cultures, soit issus de cueillettes, alors pseudo-sauvages dans les haies que nous possédons. Je vais transformer tout ça et je vais faire des sirops, des confitures, du ketchup, des pickles et autres produits gourmands.
Mais on a dit qu'on n'avait pas faim, là.
Pour plus tard, ça se conserve bien.
Et donc, quel a été ton chemin, en fait, qui t'a permis d'être conventionné par Kessalim?
Alors, au tout départ, c'est un projet dont je ne connaissais pas l'existence, honnêtement. Voilà, je ne connaissais pas l'existence ni de ce projet de sécurité sociale alimentaire, ni de la Kessalim, etc. C'est une cliente sur un marché qui... et dans la création d'une des antennes de la caisse Alim, au moment donc, où c'était vraiment quatre antennes séparées, donc la caisse Ouest, et ils avaient ce projet de la monter, ils m'en ont parlé, puisque c'est une personne qui était cliente de mes produits et qui les trouvait intéressants, qui trouvait intéressantes aussi mes valeurs et mes manières de faire. Et moi, j'ai adhéré tout de suite à l'idée. Donc après, il a fallu passer par l'étape conventionnement. Donc de manière pratico-pratique, des personnes de cette antenne de Kessalim sont venues me voir sur mon exploitation. Nous avons discuté, elles ont visité la ferme, discuté de mes pratiques, de mes valeurs, de ce que je proposais. Et suite à ça, c'est une décision des adhérents de la Kessalim, collégiale, de conventionner ou pas. Et donc voilà, j'ai été conventionnée. Et ça permet maintenant que sur mes lieux de vente, je puisse dire que je suis conventionnée. Donc les gens qui possèdent cette fameuse carte, qui sont adhérents à la Kessalim, sur mon stand, savent qu'ils peuvent payer leurs produits en mona. Donc des gens qui pourraient ne pas avoir accès à mes produits, qui sont des produits finalement non indispensables, mais plaisir, et qui ne sont pas forcément dans la même gamme de prix que la grande distribution. Et de pouvoir quand même leur vendre ces produits qui vont être plus naturels, qui sont locaux, qui sont de saison, plaisir et cultivés et produits de manière le plus vertueux possible.
Et tout à l'heure, il était question aussi de la rémunération des producteurs et des productrices, que on évite que vous soyez trop sous le seuil de pauvreté. Est-ce que de ce point de vue-là, en fait, tu y trouves un intérêt aussi? Est-ce que ça te garantit, en fait, une clientèle du fait du conventionnement?
Alors, c'est encore marginal. C'est encore marginal parce que comme c'est une expérimentation qui est très locale, c'est pas quelque chose de généralisé. Donc, j'ai très peu de clients, finalement, qui dépensent en mona chez moi. Je ne suis pas allée là-dedans pour augmenter mon chiffre d'affaires. Ça, ce serait formidable de pouvoir me dire que plein de gens peuvent avoir accès à mes produits et vont délaisser la grande distribution pour venir chez nous, que ce soit producteur ou petit magasin ou même petit restaurateur. Pour l'instant, honnêtement, ce n'est pas encore le cas. Par contre, j'ai effectivement quand même des clients, et ça me fait plaisir, qui vont venir m'acheter des produits, comme toi, Michel, par exemple, qui ne seraient peut-être pas venus chez moi s'il n'y avait pas eu ce dispositif-là.
Mais enfin, quels sont les critères pour que une personne qui se soit conventionnée et comment on peut agrandir, enfin les producteurs peuvent grossir finalement cette, ceux qui offrent des produits, enfin ceux qui proposent des produits.
Et moi je compléterai ta question. Vas-y. En disant quels sont les critères et surtout qui détermine les critères.
Ah oui, les deux, voilà.
Ouais, j'allais commencer par ça parce que avant quels sont les critères, c'est aussi comment, par qui et comment ils ont été construits. Et du coup pour dire deux mots aussi sur l'historique du projet Casalim, donc l'initiative à Toulouse, c'est un projet qui s'est lancé fin 2022, début 2023. Et du coup, ça a été un temps où, du coup, il y a des, on dit caisses, on peut aussi dire comités citoyens, voilà, sur ces quatre territoires, qui se sont créés et qui ont, déjà, qui ont fait une phase un peu de connaissance de cause, c'est-à-dire par des visites chez des agriculteurs, des agricultrices, des transformateurs, par des ateliers de formation et autres, ont monté en compétence petit à petit aussi sur qu'est-ce que c'est de créer notre alimentation, pour savoir aussi quelles sont les contraintes. C'est pas si facile de produire de la nourriture. Et dans une deuxième phase, ils ont réfléchi en collectif sur leurs outils de fonctionnement. Donc on avait parlé du guide de cotisation tout à l'heure. Et c'est à ce moment-là aussi qu'ils ont travaillé sur des critères de conventionnement. C'est-à-dire, de par ce qu'on a appris, sur quel point on aimerait pouvoir conventionner. Et l'idée, c'est que c'est quand même pas c'est quand même les professionnels qui connaissent le mieux leur métier. Donc l'idée, c'est pas une checklist, on dit oui, non, etc. Mais en tout cas, c'était des thèmes vraiment à explorer pour mieux comprendre la philosophie, les valeurs de la personne qui produit, qui transforme ou qui distribue, pour ensuite les restituer en groupe. Et du coup, l'idée, c'est que des personnes du comité citoyen, par exemple, peuvent connaître Isabelle sur les marchés parce que soit ils sont déjà clients, soit puisqu'ils en ont entendu parler par ailleurs. Et du coup, en binôme ou en trinôme, ils vont aller rencontrer la personne une première fois, soit sur le marché ou autre, pour parler du projet, voir si la personne est intéressée. Et si oui, du coup, il y a ce guide d'entretien qui reprend un peu ces grands critères-là.
Et donc, tu peux nous les donner, ces critères ?
Ouais, en gros, chaque caisse, chaque comité citoyen a fait ce travail-là, donc c'est un petit peu différent selon les caisses, mais en gros, il y a un peu cinq thématiques qui ressortent. Il y a la localité, l'idée de, si possible, pouvoir s'approvisionner le plus localement possible et de parler, par exemple, du département, si on ne peut pas le trouver dans le département, dans la région, la France, sinon l'Union européenne, etc. Il y a un aspect aussi sur les valeurs et les pratiques, sur par exemple la transparence, est-ce que l'agriculteur, l'agricultrice va être en lien, en résilience avec d'autres personnes autour, est-ce qu'elle fait du lien sur des projets avec des écoles, etc. D'avoir aussi des produits qui sont bons au goût et pour la santé. Et les deux gros aspects, c'est est-ce que la production, la transformation, la distribution, est-ce qu'elles sont durables à la fois écologiquement, par les pratiques sur le sol, etc., mais aussi socialement, là on peut aussi aborder les conditions de travail, etc. Donc il y a un peu tous ces thèmes-là qui ont été déclinés un petit peu différemment selon les caisses. Et après, ça se transcrit par des guides d'entretien. Donc on va pouvoir avoir des questions qui sont un peu des accroches qu'on pourra avoir auprès des producteurs, productrices, et qui peuvent être un peu différents si c'est quelqu'un qui fait pousser des cultures, si c'est quelqu'un qui transforme, etc.
Donc si je comprends bien, les citoyens ont créé leur outil. Les critères de conventionnement, ce sont eux qui vont à la rencontre des producteurs et des productrices ou des distributeurs, distributrices. À l'issue de cette rencontre, ils rendent compte au collectif de citoyens de ce qui ressort de l'entretien, et c'est collégialement qui décide de la convention, du conventionnement.
Tout à fait.
C'est ça. Donc il y a vraiment plusieurs filtres en fait dans la prise de décision.
C'est ça, et c'est aussi un vrai moyen pour apprendre à connaître aussi les pratiques et qu'est-ce que ça veut dire vraiment de produire, et pas juste de dire oui, non, mais de se rendre vraiment compte de qu'est-ce que c'est de travailler dans ce domaine-là. Et c'est toujours un vecteur de montée en compétences aussi. On essaye que ce soit des binômes ou des trinômes qui comprennent des personnes qui l'ont déjà fait, qui se sentent à l'aise peut-être sur les sujets agronomiques dans une certaine mesure, et des personnes qui l'auraient jamais fait aussi, pour découvrir petit à petit.
D'accord. Et juste, donc c'est vrai que moi, ça m'avérisse les oreilles d'entendre le mot citoyen aussi souvent, parce que c'est juste de rappeler, hein, juste un truc, une réalité concrète. Effectivement, on n'est pas qualifié citoyen celui qui n'a pas le droit de vote. Et en France, oui. Ce sont essentiellement ces gens-là qui sont en train de bâtir nos routes, bâtir nos... Voilà, de faire tous les sales boulots. C'est ceux qui n'ont pas de papier, quoi, justement, et qui ne sont pas citoyens, du coup. Voilà,
mais bon, a priori, l'acception est large. Oui. Puisque...
Mais je tenais à le rappeler, vraiment.
Peut-être on se fait une petite... Juste musicale.
Et tu disais, mais qui sont donc, tu nous as donné un petit peu, c'est chouette le profil, enfin la manière de comment vous travaillez, mais qui est ce groupe de gens, si je viens, mais bon, qui décide, c'est qui en fait, c'est par exemple, ça peut être nous cinq, là, on se met d'accord, ou voilà, ou tu dis, voilà, des gens qui, il n'y a pas un profil absolu, c'est qui le groupe qui décide finalement, hein?
C'est ça. Ben, chaque comité, l'idée, ça avait été grâce à des partenaires sur le territoire, des associations locales, culturelles, autour de l'alimentation, de la formation et autres, des centres sociaux aussi, d'essayer de créer des collectifs qui soient assez variés, que ce soit en termes socio-économiques, culturels, pour aussi faire cette caisse de solidarité commune. Donc en gros, dans l'ensemble de Caisse Alim, il y a à peu près un tiers des personnes qui vont cotiser l'équivalent de 100 € ou plus, et deux tiers à peu près qui cotisent moins, et on essaye le plus possible d'avoir de la diversité dans les caisses, donc à la fois des personnes qui vont mettre 10, 20, 30, 40, 50, 60, etc., 100 et plus, pour aussi recréer des espaces de délibération avec des gens qui nous ressemblent pas forcément ou qu'on va moins croiser, essayer aussi de recréer un espace démocratique varié.
Et dans les quartiers qui sont concernés, du coup, est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on parle depuis le début de quatre caisses à Toulouse, et quels sont les territoires sur lesquels vous avez fait le choix? Enfin, je ne sais pas si c'est un choix, en fait, de territorialiser, ou si ça s'est fait comme ça, parce qu'il y avait des gens qui se sont mis à proposer quelque chose.
Bah ça, peut-être Michel ou Isabelle l'ont en tête, ou je peux compléter après
Vas-y, tu fais ça très bien.
Sinon, je t'aide. J'ai été regarder sur...
Ah ouais ? Ah bah vas-y, ouais.
Vas-y, toi d'abord, je complète.
Il y a quatre caisses. Donc, il y en a une qui est plutôt sur les quartiers nord de Toulouse. Une à l'ouest, du coup, il y a Bagatelle, les Pradettes et autres. Mais qui va aussi jusqu'à Saint-Cyprien.
Donc, nord de Toulouse, c'est...
Je l'ai sous les yeux. Isard, Trois-Cocus, Lavache, Lalande, Bordeaux-Rouge, Croix-d'Oral, Launaguet, Aucamville et jusqu'à L'Union. Ça, c'est pour le nord. Ensuite, tu disais l'ouest jusqu'à Saint-Cyprien, donc, ouais. Et après ?
Après, à l'est, bah, du coup, ça va être un peu le centre-ville Toulouse et aussi Côte-Pavée, Montaudran. Et après, sud, ça va être plutôt les communes au sud de Toulouse, donc Ramonville, Osville et Castanet.
Et donc, à chaque
du
fois...
Du coup, il n'y a rien au 7 denier.
Après, ce n'est pas une délimitation stricte, c'est-à-dire que chaque comité va avoir des lieux de rencontres régulières qui vont être dans cette zone-là, mais tant qu'on a envie de participer et qu'on peut des fois se déplacer dans ces lieux, voilà, il n'y a pas de limite à...
Mais là, on voit clairement entre Ramonville, Osville-Castanet et... Bagatelle ou Trois-Cocus des Isards, etc., c'est pas tout à fait les mêmes profils de population. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a une solidarité?
Il y a des riches et des pauvres, disons-le.
Il y a une diversité quand même au sein de chacun des comités. Il y a des gens aussi de centre de Toulouse qui peuvent être aussi dans chacun des quatre selon leur proximité. Et bien sûr, le territoire fait qu'il y a des différences entre les comités, mais il y a l'idée déjà d'avoir de la diversité le plus possible au sein de chacun. Et au global, c'est quand ça reste, même s'il y avait ces quatre antennes, ces quatre comités, un projet commun qui met en commun tous les professionnels conventionnés, qui utilisent la même monnaie, etc. Donc ça reste collectif, ouais. Mmh.
Est-ce qu'on écoute une petite musique?
On se fait une goguette?
Allez, vas-y.
Hein? J'ai trouvé ça très drôle.
Le dé haricot, c'est ça?
Vous êtes bien sur Canal Sud et sur Radio Laura, sur les petits papiers.
Aïe! Julien, t'es là? Si j'avais su que j'y passerais toute la journée,
je les aurais peut-être pas semés.
Oh là là.
Sous le soleil brûlant, on se baisse, on s'étire. Pourtant, on n'est pas prêt à souffrir. Toi, tu les vois très bien arrangés sur l'étal. Le prix de vente, tu le trouves pas normal. Tu te dis qu'il faut que tu gagnes au loto. Je sais, des légumes frais, c'est pas si banal. Tu compares ça, mais tu sais pas le travail. Je t'invite à venir avec moi, mets ton chapeau. Des haricots, c'est la saison de l'été où y a trop de boulot. Pas le temps de rêver à bronzer au bord de l'eau. On va essayer d'éviter le lumbago. Des haricots, je sais que t'aimes ça avec un petit gigot. Tu les écoutes à table avec un grand morito. Tu oublies le maraîcher qui est chez l'ostéo.
Vas-y, file-moi des bons haricots. Je m'en fous que t'as vraiment très chaud. Que tu me dis que t'as mal au dos. Que tu rêves d'un apéro. Quand tu me dis que t'en as plus, je deviens cinglé. Je ne sais pas comment je vais faire, je vais tout casser. Je veux en croquer toute l'année car c'est bon pour la santé. Haricots, haricots, avec moi tu devrais la chanter. Fais un effort, tu sais très bien que je ne peux pas m'en passer. Depuis que j'ai goûté, je veux devenir maraîcher.
Tranquilo, tranquilo, ça arrive bientôt. Il faut garder le tempo, poquito, poquito. Tu peux danser avec moi ou récolter tout.
Haricot, haricot, prépare-moi 2 kilos. Je vais garder le tempo, tranquillo, tranquillo. Je vais danser avec toi, mais pas récolter tout ça. Car c'est ton boulot, je vais me poser là.
Des haricots, c'est la saison de l'été où y'a trop de boulot. Pas le temps de rêver à bronzer au bord de l'eau. On va essayer d'éviter le lumbago. Des haricots, je sais que t'aimes ça avec un petit gigot. Tu les écoutes à table avec un grand. Puerto Rico, d'un macalon et d'un petit morito. Il suffit d'y croire en le chantant à gogo. Tranquilo, tranquilo, ça arrive bientôt. Faut garder le tempo, poquito, poquito.
Ah bah voilà, là, on a bien dansé, c'était, on s'est bien réchauffé.
Oui, c'était la fin du clip. Apéro, apéro.
Ah, je suis désolée, j'ai cassé tout là.
Pas du tout.
Donc on va...
On peut peut-être désannoncer qui
oui
c'est. Donc,
bah oui, vas-y.
C'est des haricots, ou des haricots. Donc c'est avec c'est Louis Fonzi. Non, bah, c'est Faites la boule AZ. La boule AZ.
C'est le jardinier bio.
Ouais, le jardinier bio, merci.
Avec un featuring de la boule à Z, et c'est Louis Fonsi, c'est le créateur d'Despacito, évidemment, qui est...
Le détourné.
Qui s'est fait goguettiser.
Exactement.
Donc on va reprendre cette émission avec un exemple concret, en fait, que vous allez nous raconter, Isabelle et Michel, de ce qui s'est passé à Bagatelle, c'est ça, hein, dans le quartier de Bagatelle, avec la création sur un marché... à Bagatelle, de ce que vous avez appelé l'allée des producteurs. Michel, est-ce que tu peux nous expliquer
Oui, bien sûr. À l'origine, je dois reconnaître que c'est une des animatrices du centre social de Bagatelle qui a mis en route ce projet. Anaïs, pour ne pas la nommer, qui n'y est plus maintenant. Mais elle a vraiment... pousser toute une équipe vers cet espace qui s'est créé sur le marché de la Forêt, le marché de plein vent de la Forêt, qui est très, très important, très costaud, et essentiellement des produits qui viennent d'Espagne, qui ne sont pas chers, qui n'ont pas trop de goût, mais qui sont à la portée, justement, des gens de ces quartiers.
Ils ne sont pas chers, c'est ça que tu veux dire?
Et oui. Ils sont à la portée, vraiment, des petites bourses, quoi. Donc, c'est très fréquenté, très, très, très assidûment. Et on a eu envie, on a réalisé... Avec le consentement de la mairie, quand même, hein, il faut le dire aussi, une partie de ce marché-là, une petite allée, est consacrée de plus en plus, et on va l'agrandir avec des producteurs locaux qui sont conventionnés par Kessalim, et donc à la portée, avec cette carte Kessalim, à la portée des habitants qui bénéficient là... Malgré un petit revenu, de pouvoir bénéficier de produits de qualité à tout point de vue, circuit court, etc. Quoi.
Ça veut dire que parallèlement au déploiement de cette allée des producteurs, vous avez incité ou invité les gens du quartier à adhérer, du coup, pour pouvoir bénéficier de...
On travaille là-dessus, c'est pas facile, c'est pas commode, parce que les gens sont toujours réticents à des nouveautés comme ça, et ils sont toujours attachés à leurs tomates très fades, là. C'est difficile de les convaincre, et puis de leur faire goûter les produits, parce qu'il faut qu'ils achètent, et au départ, s'ils n'ont pas la carte Kessalim, c'est quand même un prix... Qui est important pour eux et souvent inaccessible.
Fatima, tu voulais poser
c'est juste,
ta question.
Moi, je me pose la question, est-ce que les gens, c'est qu'ils veulent des produits fades? Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense plutôt qu'il y a des habitudes par rapport à ce qu'on a dans son porte-monnaie, quoi. C'est plutôt ça. Et donc, c'est plutôt ce que j'ai tendance à penser. C'est pas que les riches, ils ont bon goût parce qu'ils savent mieux choisir leurs trucs.
Il y a aussi la problématique des fruits et légumes hors saison, en fait. Et c'est une habitude que les gens ont prise aussi au supermarché. C'est difficile de faire comprendre que on peut pas avoir une tomate en plein hiver et qu'elle soit locale.
Non, t'as raison.
Il y a les deux choses, évidemment. Il y a le porte-monnaie qui souvent est celui qui décide, mais il y a aussi des habitudes en fait qu'on prend dans la grande distribution et qui.
Mais à Favorette, c'est beaucoup de population très précaire quand même. Et non, qu'en pense Michel?
Oui, le critère principal quand même, c'est le niveau de la dépense. C'est le prix tout simplement. Avant la qualité du produit, bien sûr, parce que les gens ont beaucoup de difficultés pour arriver à la fin du mois. Il y a quand même des familles, des enfants, des familles monoparentales aussi. Donc c'est vraiment très difficile pour ces gens-là. Moi, je les fréquente depuis longtemps et je sais que jusqu'à 3 euros, ils peuvent. 5 euros, ça devient impossible pour eux, quoi.
Et donc, comment vous arrivez à les amener vers le système de Kessalim? Quels sont les arguments?
Pour le moment, ils n'y viennent pas. il faut aller à la pêche. Au niveau du centre social, il y a beaucoup de fréquentation et beaucoup de travail qui se fait à ce niveau-là. Et là, on arrive à toucher quand même des mères de famille, etc., et qui sont très, très satisfaites. Hein. J'ai entendu certains témoignages de mamas qui sont contentes et qui, avec leur carte, là, foisonnent. Et puis elles mangent des bonnes choses, quoi.
Ça sera peut-être la meilleure promotion.
Absolument, mais c'est la base, c'est ça, c'est l'expérience qui parle, et là il faut diffuser, quoi.
Et toi, Isabelle, Edith, tu voulais dire?
Non, c'était vraiment pour dire, pour souligner que, en effet, tout le monde a envie de bien manger. Et après, y a le frein économique, c'est là où Kessalim essaie de venir avec le budget alimentaire. Il y a l'accès aux connaissances. Souvent, on dit ça, il manque la sensibilisation, mais c'est vrai que ça existe, mais ça reste limité. La partie économique est importante. Et le frein géographique aussi, d'avoir des lieux où dépenser, c'est pas facile selon où est-ce qu'on habite à Toulouse. Et c'est là où cette initiative lancée par le centre social de Bagatelle est super, parce que ça joue aussi sur cet aspect-là. Et c'est vraiment la coordination de plein d'acteurs. Acteurs différents, les centres sociaux, il y a VRAC aussi, vers un réseau d'achat en commun qui essaie de jouer sur ça. et avec la Caisse Alim et d'autres, ensemble, on peut lever tous les freins.
Donc Isabelle, toi, tu étais déjà une habituée de ce marché ou tu es venue à l'occasion de la création de cette allée des producteurs ?
Alors moi, je suis vraiment venue, pour la création de cette allée de producteurs. Michel, tu parlais du centre social de Bagatelle. Je voulais aussi parler d'Alimeco aussi. Voilà. Qui a beaucoup œuvré avec le centre social et la CAP.
Donc Alimeco, tu peux préciser.
Donc Alimeco, c'est une association qui œuvre, qui cherche à promouvoir une alimentation de qualité, mais vraiment au sein des quartiers. Ils sont au bas des immeubles, au milieu des familles, au sein du quartier, donc très très proche de tous les habitants, quels qu'ils soient, du côté de Bagatelle, justement, dans ce coin-là. Donc Alimeco, c'est associé avec le centre social de Bagatelle et la CAP, pour mettre en place cette allée de producteurs. Et moi, j'ai été contactée au tout début de l'aventure. Alors, pas au début de leur travail qui a pris des mois et des mois, mais au début de l'aventure, parce que ça a été très difficile pour eux de trouver des producteurs pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on a quand même déjà tous beaucoup, déjà un circuit de commercialisation qui est en place. Donc, c'est pas facile de se dégager du temps pour avoir un nouveau circuit de commercialisation, un nouveau marché. Et il faut dire que quand on est un petit producteur avec justement des prix qui sont qu'on ne peut pas concurrencer avec ceux qui font de la revente, le marché de Bagatelle, c'est pas là où on va aller en premier. Moi, j'y suis allée parce que c'est vraiment un engagement personnel, d'avoir envie de montrer mon travail, de montrer mon travail de paysanne, d'expliquer ce prix qui effectivement va être au-delà de ce dont ils ont l'habitude de consommer parce qu'ils ne peuvent pas. Donc ce prix-là, il est plus élevé, mais pourquoi ? Donc expliquer le travail, la rémunération juste de mon travail. Et l'accès qu'ils ont à ce produit grâce à ce système-là de Caisse Alim et que moi, je promets aussi. C'est-à-dire que sur place, je vais avoir des flyers, je vais expliquer, je vais... Ça fait aussi partie, de ma présence sur le marché, c'est aussi ça. Et ça va être une deuxième branche. Au-delà de rendre accessibles mes produits, ce serait aussi d'essayer de remettre peut-être un peu de mixité dans la clientèle de ce marché avec des gens qui n'y viennent pas. Peut-être plus forcément parce qu'ils ne trouvent pas des produits locaux et sains et vertueux, essayer de les faire revenir aussi. Donc il y a plusieurs aspects sur ma volonté de venir sur cette allée de producteurs. Donc moi j'y suis depuis le mois de mai, puisque ça a commencé la première édition au mois de mai, où il y a eu tout un travail de fait, tout le monde était là à la Caisse Alim, à la CAP, à l'Imeco, à essayer d'expliquer ce projet-là. Cette petite allée qui fait 15 mètres, on a le droit à 15 mètres sur cet immense marché, mais on était là. Et leur travail à eux, incessant pour essayer de trouver des producteurs, parce que c'est difficile, j'ai l'impression que c'est la partie la plus difficile, de nous faire venir. Moi, j'y suis, j'ai envie d'y rester, je m'implique, j'y reste une fois par mois parce que j'ai mon travail qui prend beaucoup de temps en dehors et d'autres marchés aussi. Mais c'était important pour moi de participer à ce projet et même d'essayer de m'investir plus dans la Caisse Alim, justement, de manière très personnelle.
C'est des gens, avec des gens comme toi qu'on arrive à percer, qu'on arrive, je ne dis pas qu'on essaie, non, qu'on arrive à percer. C'est avec cette représentation que les gens vont être émus, vont comprendre ce qui se passe. Voilà. Et quand même, avec ces produits-là, on remet tout le monde au même niveau. C'est ça qui est important aussi, et ça c'est un travail de fond au niveau de ces quartiers défavorisés qu'il faut absolument faire. Et faire venir aussi ces autres personnes, ces gens qui ont vraiment les moyens, qui vont venir aussi cotiser et alimenter la caisse, et qui vont aussi avoir apporté de bourse tous ces produits-là.
Il va nous falloir conclure. Et donc, est-ce que, Edith, tu peux nous dire brièvement, parce qu'on arrive vraiment au bout, quels sont les enjeux là aujourd'hui de la Caisse Alim ? Qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, à nos éditrices de se précipiter pour cotiser, de vous soutenir de quelle façon, se rendre à des événements, enfin voilà. Qu'est-ce que vous, vous souhaitez lancer comme message en fin d'émission ?
Déjà, se renseigner sur l'histoire de la Sécu, c'est intéressant, et de montrer que c'est vraiment quelque chose de chouette. Il y aura des petites ressources peut-être pour en savoir plus sur le collectif pour une sécurité sociale de l'alimentation et sur le projet Caisse Alima Toulouse. Il y a aussi un site où vous pouvez retrouver plein d'infos. Là, d'ici à la fin de l'année, on n'a pas d'événement public, donc restez connectés peut-être pour l'année prochaine. Et sinon, pour Caisse Alima, là, ça va faire un an que l'expérimentation elle est lancée, dans le sens où il y a les budgets alimentaires et les cotisations. On continue à réfléchir sur comment pérenniser ce projet. Si ça vous intéresse, vous pouvez, sur le site de la Caisse Alima, dire votre intérêt pour participer. Aujourd'hui, on n'a pas donné aussi les petits chiffres. Il y a 345 foyers adhérents et un peu plus de 90 pro-conventionnés. On ne va pas encore exploser le nombre d'adhérents adhérentes. On a vraiment envie de continuer à expérimenter cet aspect démocratique. Là, on crée une association. Il y a différents collèges dans l'association. Il y a de plus en plus d'adhérents, adhérentes, professionnels qui participent à la vie du collectif. Et pour ça, je remercie beaucoup Isabelle et Michel qui sont présents. C'est vraiment super, quoi. Donc on travaille dur à pérenniser ce projet-là. N'hésitez pas à regarder les sites et autres pour en savoir plus.
Merci beaucoup. Merci à tous les trois pour toute cette richesse que vous nous avez apportée, que vous avez partagée avec nous.